Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Laporte-Daube, je suis psychologue et je vous propose une série de podcasts sur le thème des violences sexuelles. Aujourd'hui, nous allons introduire le thème des violences sexuelles par le biais des idées reçues. Les idées reçues au sujet des violences sexuelles sont des croyances collectives, des représentations auxquelles beaucoup adhèrent, souscrivent. Nous allons examiner quatre idées reçues sur les violences sexuelles répandues dans la société et nous allons les mettre à l'épreuve du réel pour savoir si elles sont fondées ou bien erronées, démêler le vrai du faux pour y voir plus clair. Alors, c'est parti, première idée reçue. Les auteurs de violences sexuelles seraient des personnes qui n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions sexuelles. Selon cette croyance, les auteurs de violences sexuelles seraient saisis d'une pulsion irrépressible, incontrôlable, qui conduirait au passage à l'acte. On pourrait alors assimiler le viol à une sorte de pétage de plomb. On pourrait faire une analogie entre colère impulsive et violence sexuelle. Comme si, au fond, les pulsions sexuelles et l'impulsivité étaient de même nature. Les personnes qui souffrent d'impulsivité décrivent une montée de colère irrépressible, très rapide, générant perte de contrôle et agressivité. En est-il de même pour les pulsions sexuelles, finalement? Alors, quand on travaille au quotidien en tant que psychologue, on ne peut être que surprise par cette idée reçue, car elle est systématiquement contredite par les récits relatant des violences sexuelles. Je vais prendre quelques exemples. Un homme demande à une petite fille de monter dans sa voiture pour lui montrer son chemin, puis il l'emmène dans un endroit désert pour l'agresser. Dans cet exemple, on remarque qu'il y a clairement planification. Or, si le désir peut être temporisé, si les capacités intellectuelles sont mobilisées pour manipuler, c'est bien que l'agresseur est dans le contrôle de lui-même et de son corps. Ce n'est pas ce que l'on observe dans un comportement impulsif. Autre exemple. Un ami de la famille établit un lien de complicité et de tendresse avec la fille de ses amis. Et puis un jour, il s'organise pour se retrouver seul avec elle et l'agresse. Dans ce cas, il y a du calcul, il y a même une planification, une organisation pour rendre possible le passage à l'acte. Dans les violences sexuelles qui me sont relatées par les victimes, dans la grande majorité des cas, on retrouve cela. De la planification, de l'organisation, de la manipulation, de la temporisation. On voit qu'on est très loin de la pulsion incontrôlable qui jaillit comme une nécessité impérieuse. Au contraire, le contrôle de l'autre, qui exige d'être en mesure de se contrôler soi-même, est central. On peut remarquer une chose avec cette idée reçue. L'auteur des violences est quelque peu déresponsabilisé de ses actes. Il serait doté naturellement, génétiquement, de pulsions sexuelles peu contrôlables. Il aurait la malchance d'être né avec ce bagage génétique. Cette croyance dans une forme de déterminisme biologique ne résiste pas à l'épreuve des faits. Donc, il y a une montée de désir sexuel, bien sûr, mais elle est contrôlable, puisqu'il y a ensuite organisation, planification, intention. Sur les centaines de cas que j'ai recensés, pas un seul ne comporte un contexte qui n'est pas organisé, qui n'est pas, à minima, propice à, qui n'est pas dans la plupart des cas préparé, pensé. Donc le modèle de l'impulsivité n'est pas opérant. Quand on peut faire appel à ses fonctions exécutives, c'est qu'on a du contrôle. Deuxième idée reçue, les auteurs de violences sexuelles seraient des malades mentaux. En ce sens, on ne pourrait pas vraiment les considérer comme responsables de leurs actes. S'ils pouvaient faire autrement, ils le feraient. Leur « maladie » entre guillemets, serait en cause dans le passage à l'acte. On entend souvent à ce sujet que « des tarés, il y en aura toujours », discours qui amène à une vision plutôt fataliste au sujet des violences sexuelles. C'est malheureux, mais c'est comme ça, pourrait-on ajouter. Alors pourquoi cette croyance répandue est-elle fausse? Tout d'abord, il est vrai que parmi les auteurs de violences sexuelles, certains souffrent de ce qu'on appelle des « paraphilies », c'est-à-dire, pour le dire plus simplement, d'une sexualité inadaptée qui peut être cause de souffrance, voire même de détresse. On peut citer l'exhibitionnisme, la zoophilie, etc. Mais de nombreux hommes souffrent de paraphilie sans passer à l'acte, et ceci pour une raison très simple, parce qu'ils sont conscients de la souffrance induite pour la personne en face, et qu'ils ont trop d'empathie pour commettre un tel acte. l'inverse, j'ai déjà reçu des patients qui ne souffraient pas de paraphilie et qui avaient pourtant déjà agressé sexuellement, par exemple, une femme. Donc en fait, quel est le point commun entre tous les auteurs de violences sexuelles, qu'ils souffrent ou non de paraphilie? C'est le manque d'empathie. Par ailleurs, certaines personnes souffrent de paraphilie et ne passent jamais à l'acte. C'est toute la différence, par exemple, entre pédophilie, c'est-à-dire la paraphilie consistant à être attiré sexuellement par un enfant, et la pédocriminalité, qui consiste à agresser sexuellement un enfant. Finalement, ce point nous fait toucher du doigt une caractéristique essentielle des violences sexuelles. Dans la terminologie violence sexuelle, le terme le plus important n'est pas le mot sexuel, mais le mot violence. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de similitudes que de différences entre toutes les formes de violence. Se pose naturellement une question. Qu'est-ce qui peut expliquer le passage à l'acte dans la violence? Si on s'en réfère au DSM-5, manuel qui recense les critères diagnostiques, les auteurs de violences sexuelles, je parle là uniquement des auteurs adultes, présentent généralement un trouble de la personnalité antisociale. Ils peuvent aussi présenter d'autres traits de personnalité pathologique, par exemple pour certains des traits narcissiques, pour d'autres des traits paranoïaques, etc. Mais pour rendre le propos plus clair, on va aujourd'hui se concentrer sur la personnalité antisociale. Alors j'ouvre ici une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'un trouble de la personnalité? Eh bien, c'est un ensemble de traits de personnalité pathologiques, résultat de la manière dont la personnalité s'est construite et dont les comportements inadaptés sont à mettre en lien avec des croyances profondes. Nous allons maintenant nous pencher plus précisément sur les caractéristiques de la personnalité antisociale. Donc, les comportements violents chez l'adulte résultent de la manière dont la personnalité se structure, s'organise et des croyances de fond qui imprègnent ce fonctionnement. Aaron Beck, grand psychiatre américain, a établi une correspondance entre chaque trouble de la personnalité et les croyances de fond qui lui sont associées. D'après son travail, et notamment dans son questionnaire PBQ, les croyances de fond associées à la personnalité antisociale sont notamment « la vie est une jungle où le plus fort survit » ou encore « il est parfaitement acceptable de mentir et de tricher tant que l'on n'est pas découvert ». Si je résume, dans la personnalité antisociale, on trouve une non-intériorisation des règles sociales, un rapport de domination, une absence d'empathie.
D'après ce que l'on vient de voir, la dimension pénale paraît essentielle. Est-ce le cas en France aujourd'hui? Malheureusement non, les chiffres en attestent. Seuls environ 10% des dépôts de plaintes pour violences sexuelles donnent lieu à condamnation chaque année, d'après les chiffres du gouvernement. Et comme toutes les victimes ne portent pas plainte, on tombe à moins de 1% de condamnations au total, d'après plusieurs estimations, que les victimes soient des femmes ou des enfants.
Ces chiffres montrent une forme d'impunité dans les faits, au niveau collectif, et qui bien sûr pose problème. Ces chiffres attestent que la lutte contre les violences sexuelles aujourd'hui en France n'est tout simplement pas efficace. Si on comprend que le manque d'empathie et le rapport de domination sont au cœur du passage à l'acte, on comprend aussi que les violences sexuelles ne sont pas une fatalité, qu'il est possible de les réduire, et notamment par la prévention, par le biais de l'éducation, et notamment l'éducation au respect et à l'empathie dans le champ de la sexualité. Cette approche préventive, si elle était déployée de façon conséquente, pourrait d'ailleurs être un outil très utile pour faire diminuer les violences sexuelles. Alors il est important ici d'ajouter une précision. Dire que les auteurs de violences sexuelles ne sont pas des malades mentaux ne signifie pas qu'ils n'ont pas souffert quand ils étaient enfants. Donc évidemment, les passages à l'acte violent sont à mettre en lien avec ces croyances de fond. Quand je creuse dans le passé de mes patients auteurs de violences, ils ont un point commun. Ils ont été soit victimes, soit témoins dans leur enfance de violences qui les ont traumatisés. Violences sexuelles ou pas, cela peut être également des violences physiques ou psychologiques. Une personne dans leur entourage, souvent un parent, était violent. Mais cela ne signifie pas qu'il souffre en tant qu'adulte. C'est là une subtilité qu'il faut bien comprendre. L'enfant intérieur blessé est enfoui tout au fond de l'inconscient. Ils n'y ont souvent pas accès. Ils ne ressentent donc pas la souffrance de cet enfant intérieur. L'auteur de la violence ne ressent pas de souffrance en étant violent. C'est sa victime qui souffre. C'est très important de bien le comprendre, de l'avoir en tête, notamment pour ne pas tomber dans le piège de la victimisation. En effet, bien souvent, les auteurs de violences se victimisent. C'est toujours la faute de l'autre. Ils se décrivent comme fragiles et malheureux. Ce récit, cette victimisation, vise en fait à ne pas subir les conséquences de leurs actes. Elle n'a rien à voir avec la véritable souffrance enfouie et qui, pour le coup, est souvent peu accessible à la conscience. Les deux idées reçues dont on vient de parler sont vraiment très répandues, on les entend communément. Les deux autres idées reçues que je vais exposer à présent sont moins fréquentes. Mais comme on les entend parfois, il m'a tout de même semblé intéressant de les exposer ici. Alors, troisième idée reçue, certains pensent que dans les cas d'inceste ou de viol conjugal, l'auteur de la violence aime sa victime, mais de façon trop passionnelle, de manière trop intense, et que c'est cela qui explique le passage à l'acte, l'amour, la passion. Pour contredire cette idée reçue, il est intéressant de faire un détour par l'éthologie. Les éthologues observent les comportements des animaux. Quand ils mettent deux primates dans un espace clos, l'un adulte éducateur, l'autre bébé de sexe opposé, il n'advient pas d'acte sexuel quand le bébé grandit. Ce qui fait conclure à Boris Cyrulnik que, je cite, « l'attachement engourdit les désirs et les transforme en angoisse ». Fin de la citation. Dit autrement, c'est la relation d'attachement qui protège, qui rend impossible l'inceste. Le lien d'attachement étant par définition une autre façon de désigner le lien d'amour parent-enfant, on peut en déduire qu'un parent qui aime l'enfant, qui a établi un lien d'attachement avec lui, ne va pas l'agresser sexuellement. C'est incompatible. Donc, l'inceste n'est pas un amour trop vif. C'est au contraire le signe d'un lien dysfonctionnel, qui n'est pas basé sur une relation d'attachement, mais sur un rapport de domination. Qu'en est-il concernant le viol conjugal? Le conjoint violeur cède-t-il à une forme de passion dévorante? La passion est-elle une cause de violence sexuelle? Côté patiente, de nombreuses femmes m'ont relaté que les viols conjugaux qu'elles avaient subis s'inscrivaient dans un cadre plus large de violence conjugale, soit de la violence physique et psychologique, soit une forme plus insidieuse et perverse de violence, basée plutôt sur des humiliations, moqueries et mensonges. D'autres patientes qui ont subi des viols conjugaux me disent qu'ils ont eu lieu en fin de relation, quand cette dernière était conflictuelle, tendue, qu'il n'y avait plus d'amour. Donc dans les récits qui sont faits, on est bien loin des envolées lyriques sur la passion amoureuse et ses soi-disant débordements. En revanche, de nombreux patients et patientes m'ont déjà raconté des passions amoureuses qu'ils avaient vécues. Jamais il n'était question de viol, absolument jamais. Donc là encore, la mise en avant de la passion amoureuse est en fait un argument utilisé par les auteurs de viol pour se dédouaner, se déresponsabiliser, mais ce type d'argument ne tient pas quand on le confronte à la réalité. Quatrième et dernière idée reçue, certaines victimes auraient une part de responsabilité dans ce qui leur arrive. Elles auraient un comportement qui n'est pas clair. Par exemple, certaines se mettraient en danger. Ou encore, d'autres auraient pu se défendre et ne l'ont pourtant pas fait, dans le cas des violences sexuelles sur des femmes adultes. D'autres encore sont restées en couple avec leurs violeurs, ce qui amène certains à penser qu'elles seraient en partie responsables des agressions suivantes. Or, soyons clairs, chacun, chaque adulte, est responsable de ses propres actes. Si certaines femmes se mettent parfois en danger, par exemple en acceptant d'aller chez un inconnu ou de laisser entrer un inconnu chez elles, c'est la plupart du temps parce qu'elles ont déjà subi d'autres agressions sexuelles avant, qui les ont traumatisées et qui ont déclenché un processus inconscient de revictimisation. Pour autant, l'auteur de violence reste le seul responsable de ses actes, de ses propres comportements. Et l'idée que les femmes pourraient se défendre ? Rappelons ici qu'il y a un différentiel de force physique entre l'agresseur et la victime qui fait que se défendre, c'est plus facile à dire qu'à faire. En plus de cela, quand on subit une violence, on est dans un premier temps plongé dans la sidération, donc immobilisé par la peur. Le système attaque-fuite ne fonctionne plus, n'est plus accessible. Donc non, les femmes ne sont pas responsables de ne pas se défendre plus. C'est plutôt à la société de trouver des solutions pour faire diminuer les violences sexuelles. Je l'ai déjà évoqué brièvement un peu plus tôt, mais cela fera surtout l'objet d'un autre podcast. Pour finir, oui, en cas de viol conjugal, certaines femmes restent en couple avec leur violeur. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'elles sont sous emprise. Et être sous emprise, c'est être sous l'influence de l'autre. Avoir de l'emprise sur quelqu'un, c'est prendre le pouvoir sur l'esprit de l'autre. On le voit ici, être sous emprise, c'est encore être victime. Donc, même quand la victime ne part pas, elle est 100% victime et l'auteur de la violence sexuelle en est 100% responsable. Résumons pour l'instant ce que l'on a évoqué aujourd'hui. La violence sexuelle ne résulte pas d'une pulsion incontrôlable puisque l'auteur de la violence s'assure au préalable que le contexte la rend possible. Parfois même, il planifie et organise son acte de violence. Donc non, les pulsions sexuelles existent, mais elles sont contrôlables. Elles ne ressemblent pas à l'impulsivité. Et puis non, l'auteur de violences sexuelles n'est pas quelqu'un qui aurait une personnalité saine, mais qui aurait la malchance d'avoir une maladie. C'est quelqu'un qui a un trouble de la personnalité. De ce fait, il est nécessaire d'avoir une approche pluridisciplinaire, qui comporte notamment des sanctions pénales pour les adultes. De la prévention aussi, avec l'éducation à la question du consentement pour nos adolescents. À l'heure actuelle, au-delà des incantations, force est de constater, chiffre à l'appui, que tout ceci n'est globalement pas mis en place, n'est malheureusement pas effectif. Troisième idée reçue, la violence sexuelle résulterait d'un amour trop passionné. Cette idée ne résiste pas à l'épreuve de la réalité. Les viols conjugaux s'inscrivent dans un contexte de violence conjugale plus globale, que celle-ci soit manifeste ou insidieuse. Par ailleurs, du côté de l'inceste, liens d'attachement et violence sexuelle sont tout simplement incompatibles. Donc, répétons-le, il n'y a aucune forme d'amour dans la violence sexuelle. Il y a domination, il y a prédation. Enfin, les femmes victimes n'ont aucune responsabilité dans les violences sexuelles qu'elles subissent pour une raison très simple. Chaque adulte est responsable de ses propres actes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a intéressé. J'aurai grand plaisir à vous retrouver pour approfondir certains sujets, le fonctionnement pervers, les conséquences des violences pour les victimes, la manière dont la société peut mieux prendre en charge ce fléau. J'ai hâte de vous retrouver pour explorer tous ces sujets. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, prenez soin de vous.